Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient ce matin. Je vous propose de réagir à la lutte contre le réchauffement climatique, moins de beaux discours et plus de concret. Voilà le message que fera passer tout à l'heure le secrétaire général des Nations Unies, réuni ce lundi avec des chefs d'État venant du monde entier à New York pour un sommet spécial sur le climat. Antonio Guterres qui demande aux 195 États signataires de l'accord de Paris de revoir à la hausse leurs engagements. Il faut dire que les dernières études sont alarmantes. Alors concrètement, qu'attendez-vous de ce sommet? Parlez-nous des initiatives qui sont prises dans votre pays. Vous êtes évidemment très nombreux à nous écouter sur le continent africain, le continent le moins pollueur mais considéré comme le plus vulnérable face au changement climatique. L'Afrique peut-elle atteindre ses objectifs? Une question qui se pose et qui alimente de nombreux débats. Comment peut-on concilier développement durable et développement économique? Vos réflexions nous intéresse, 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à poster vos commentaires et témoignages sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction. Et vous avez été nombreux à nous appeler ces derniers jours, en fin de semaine dernière, après l'élimination du chef des rebelles FDLR dans l'est de la République démocratique du Congo. Herman, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Merci de nous appeler du Burkina Faso, nous vous écoutons.
L'armée congolaise a annoncé avoir neutralisé le chef de la rébellion rwandaise des FDLR, Sylvestre Mouda Koumoura. Comment l'armée congolaise a pu faire pour localiser Sylvestre Mouda Koumoura? Comment s'est déroulée l'opération?
Oui, c'est vrai que la mort de ce chef rebelle suscite de nombreuses interrogations. Ezra Zikoumana, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI. Sylvestre Mouda Koumoura était le chef des forces démocratiques de libération du Rwanda, groupe armé formé par des acteurs clés du génocidaire de 1994. La question d'Herman, elle est pertinente. Cela faisait maintenant 25 ans que ce chef rebelle et ses hommes se cachaient dans l'est de la RDC. Concrètement, comment l'armée congolaise a-t-elle pu le localiser?
En fait, et ça vraiment, c'est ça la question. On ne sait pas exactement comment cela s'est passé. L'armée congolaise a donné très peu de détails. Son porte-parole, le général Léon Richard Kasongo, s'est contenté d'expliquer que, eh bien, il y a eu une unité spéciale qui les a localisés et qui les a neutralisés. Cela se serait passé dans la province du Nord Kivu, c'est dans le nord-est du pays. Plus précisément, dans le groupement de Bouito, c'est à une soixantaine de kilomètres au nord de Goma, la capitale du Nord Kivu.
Oui, en tout cas, il y a toujours de nombreuses zones d'ombre autour de ce qui s'est concrètement passé. Il y a plusieurs versions qui circulent, Ezra.
Oui, alors la première version, elle est apparue juste au moment où on a annoncé la mort de Mouda Koumoura. Cette version est véhiculée notamment par la société civile congolaise, par des spécialistes de l'Est congolais, qui expliquent que le général Guidon, qui est le chef de la milice du MDC rénové, que ces hommes auraient participé à la traque des FDLR depuis plusieurs jours. Donc il y a vraiment plusieurs sources qui en parlent. Alors le problème, c'est que c'est très embarrassant pour le pouvoir congolais, parce que ce général est recherché par la justice congolaise. Et donc le porte-parole de l'armée congolaise s'est empressé de nier, en assurant que il n'y avait que vraiment l'armée congolaise dans cette opération.
Et puis il y a une autre version, celle donc qui affirme que peut-être il y aurait eu une participation des services de renseignement militaire du Rwanda.
Oui, exactement. Et des sources, ce sont des sources sécuritaires congolaises, des services de renseignement qui en parlent. Ce sont des spécialistes aussi de l'Est congolais qui en parlent. Ils assurent que l'opération a été menée conjointement par des éléments des services de renseignement congolais et des services de renseignement rwandais. Comment est-ce que ça se serait passé? Eh bien, les services rwandais auraient infiltré depuis longtemps les FDLR, selon ce même source. Ils ont su. Ils ont donc, grâce à leur renseignement, ils ont pu savoir qu'il y avait une réunion du haut commandement des miliciens du FDLR qui devait se tenir à cet endroit précis avec donc tous les leaders du mouvement pour se choisir un nouveau leader politique, parce que l'ancien leader est mort en Allemagne, Ignaz Mudgoanachaka est mort en avril en Allemagne. Alors, donc ils ont contacté les Congolais.
Donc les services de renseignement rwandais auraient contacté leurs collègues congolais
pour leur dire, voilà, nous avons localisé ces gens-là, vont se réunir tel jour à tel endroit, et ils auraient monté une opération commune. Il faut savoir que les relations entre les deux services ont repris de plus belle depuis l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi. Les relations sont vraiment très bonnes et donc ils ont coopéré. C'est donc selon ces sources, alors ils auraient monté une opération et auraient donc surpris Mouda Tchoumoura avec trois de ses lieutenants qui ont été tués. Alors, il y en a un qui a échappé, le major général pacifique Naunguka, qui est surnommé, qui est un des principaux, qui était le second, qui était l'adjoint de Mouda Tchoumoura. Celui-ci a pu passer entre les mailles du filet et ce week-end, il a été désigné comme le remplaçant de Mouda Tchoumoura à la tête de ce mouvement.
Oui. A-t-on répondu à vos questions, Herman?
Merci, Juan Gomez.
Merci surtout, Esdras Dikoumana. Reste avec nous, Esdras, on a d'autres questions. Pour y répondre, Karine Bonneau, responsable des questions de justice internationale à la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Bonjour, Karine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous une fois de plus, de vous libérer quelques instants pour répondre aux auditeurs de RFI. Erson, à Kinshasa, a des questions à vous poser. Soyez le bienvenu, Erson.
Oui, bonjour, monsieur Juan. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de la Radio Mondiale.
Nous vous écoutons.
Oui, monsieur Juan, sachant que Sylvestre Mouda Tchoumoura était recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, est-ce que la CPI peut-elle quand même juger les crimes de ce chef rebelle?
Ah, il était visé effectivement depuis 2012 par un mandat de la CPI, Karine Bonneau. Quid maintenant de l'action de la Cour pénale internationale maintenant que ce chef rebelle est mort?
Ben malheureusement, l'action de la CPI va s'arrêter avec le décès de Monsieur Mouda Tchoumoura. Alors, elle attend une confirmation de son décès, de son identité par des tests ADN, mais puisqu'il est impossible de juger une personne décédée, les poursuites vont s'arrêter là. C'est aussi la fin, a priori, des poursuites de la CPI en République démocratique du Congo, sauf si elle décidait justement d'élargir ses enquêtes, mais ce qui, a priori, aujourd'hui, n'est pas du tout envisagé.
Donc il n'y aura plus de poursuites s'agissant des crimes commis par ce chef rebelle?
Plus devant la CPI, en tous les cas, plus au niveau national puisqu'il est décédé. Ensuite, peut-être des poursuites qui seront sur les crimes commis par son groupe, au niveau national peut-être, ou au niveau de la CPI, mais pour l'instant, rien du tout ne semble le confirmer.
Ouais, le porte-parole de l'armée congolaise affirmait il y a quelques jours la neutralisation de Mouda Tchoumoura était une bonne nouvelle pour l'armée congolaise. Le ministre rwandais des Affaires étrangères disait, lui, que sa mort était une bonne nouvelle pour la paix et la sécurité dans la région. Qu'en pense la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme? Est-ce malgré tout une bonne nouvelle, ou aurait-il fallu, comme l'affirme un des chercheurs RDC pour Amnesty International, aurait-il fallu l'arrêter et le remettre à la CPI pour que justice soit rendue?
Non, bien sûr, l'assassinat d'un homme n'est jamais une bonne nouvelle. Il aurait évidemment fallu l'arrêter. Et on peut regretter justement que les efforts pour l'arrêter n'aient pas été plus efficaces pendant ces 7 années durant lesquelles le mandat d'arrêt était mis à son encontre. Et puis pour le juger à la Cour pénale internationale, puisqu'au niveau national, rien n'était fait non plus. Et puis surtout aussi pour rendre justice aux victimes, puisqu'aujourd'hui, ces victimes sont absolument se retrouvent sans possible justice ni réparation. Alors peut-être que le fonds en profit des victimes de la CPI pourra décider de mettre en place des programmes d'assistance pour les victimes, mais c'est encore à définir et à décider avec elles. Mais c'est vrai que la mort d'un homme qui arrête toute action pour la justice, pour les crimes les plus graves, est toujours une très très mauvaise nouvelle et n'est pas du tout gageur de paix, au contraire.
Ouais. Esdras Dikoumana.
Oui, en fait, j'ai eu le porte-parole de la CPI sur ce sujet qui m'a dit exactement la même chose, mais qu'ils doivent d'abord identifier sans vraiment aucun risque d'erreur son corps. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le porte-parole de l'armée congolaise a parlé du corps. Ils ont posté une photo de Mouda Tchoumoura qui est mort. Des personnes l'ont reconnu. Alors, le problème, on a montré à la presse jeudi 4 de ces gardes du corps qui ont été arrêtés, mais jusqu'ici le corps, on ne sait pas où se trouve le corps de Mouda Tchoumoura, et ça c'est vraiment un problème, parce que pour pouvoir l'identifier, il faut remontrer son corps. Il y a des questions à propos de son corps qui ne seraient pas entre les mains des Congolais apparemment.
À suivre donc. Merci beaucoup, Esdras Dikoumana, journaliste au service Afrique de RFI. Karine Bonneau, merci d'avoir été avec nous, responsable des questions de justice internationale à la FIDH. Il est 10h20 à Paris, vous nous appelez vos questions 33 9 693 693 70. On va prendre dans un instant des questions concernant Edward Snowden, puisque le plus célèbre des lanceurs d'alerte souhaite quitter la Russie et demander refuge à la France. Mais d'abord, des questions sur la situation politique en Espagne. C'est un sujet qui intéresse Rousseau, qui est à Matadi, en RDC. Bonjour Rousseau.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Pour la quatrième fois en quatre ans, les Espagnols vont retourner aux urnes le 10 novembre prochain. Mm-hmm. Pourquoi n'y a pas eu d'alliance entre les différents partis de gauche espagnols?
Ah, effectivement, c'est vrai que c'est la quatrième fois que les Espagnols vont retourner aux urnes en quatre ans. Crise politique qui secoue la péninsule ibérique. Bonjour Hubert Pérez.
Bonjour.
Professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier, spécialiste de l'Espagne. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de toutes les négociations et les gesticulations qui ont rythmé la vie politique espagnole ces cinq dernières années. Mais comment se fait-il que les partis politiques ont été finalement incapables de se mettre d'accord sur la formation d'un gouvernement?
Bah, parce que le résultat des élections a fait qu'il n'y avait véritablement que des formations de gauche qui pouvaient tenter de former un gouvernement. La droite aurait été unie, mais de toute façon, elle n'aurait jamais réussi à obtenir les appuis nécessaires pour gouverner. Et les deux grandes formations à l'échelle nationale de gauche, le Parti Socialiste et Podemos, ou plus exactement unis pour Nous Pouvons, puisque c'est la traduction française, entretiennent de très mauvaises relations et elles avaient des objectifs très différents dans cette négociation qui a été extrêmement heurtée. Parce que le Parti Socialiste voulait un accord programmatique, être gouverné seul, mais soutenu par Podemos. Et Podemos voulait au contraire rentrer au gouvernement, ce que le Parti Socialiste considérait comme une erreur, puisqu'il craignait qu'il y ait en quelque sorte un deuxième gouvernement dans le gouvernement. Et cette différence fondamentale n'a pas pu être résolue à plein.
Ouais. Rousseau, vous avez une autre question.
Oui, comment est perçue cette nouvelle élection par les Espagnols?
Oui, quatrième élection en quatre ans. Pour suivre et écouter un peu les médias espagnols, Hubert Pérez, j'ai comme l'impression qu'il y a quand même avant tout un sentiment de colère qui se dégage au sein de l'opinion publique, qui n'en peut plus de cette classe politique qui ne parvient pas finalement à travailler ensemble.
Oui, très mal. Avant même l'échec des négociations, on avait un certain nombre de mouvements issus de la société civile, des associations, etc., qui poussaient très fortement les deux partis de gauche à s'entendre pour former un gouvernement. Et là, les premiers sondages indiquent que pour une très grande majorité d'Espagnols, plus des deux tiers, c'est une mauvaise ou une très mauvaise chose que de répéter les élections. Il y a même ce week-end, sur les réseaux sociaux, un certain nombre d'appels pour ne pas voter et pour manifester sa colère à l'égard des partis espagnols et de leur incapacité à se mettre d'accord.
Donc il faut s'attendre à une augmentation de l'abstention le 10 novembre.
C'est ce qu'on craint. Oui. C'est ce qu'on craint. Alors évidemment, il va y avoir une campagne électorale. L'abstention va beaucoup dépendre de la façon dont la campagne électorale va se dérouler. On a le précédent des élections de 2015 qui avait abouti au même résultat et quelques mois après, on avait eu des élections donc en 2016 et l'abstention avait augmenté de 4 ou 5 %. Il est probable qu'on aura une augmentation de l'abstention cette fois-ci. Oui. Mais on ne sait pas très bien si ça va se réaliser et non plus qui va être puni en quelque sorte. Généralement, la gauche est punie quand il y a plus d'abstention. On considère qu'il y a plus d'abstentionnistes de gauche que de droite, mais il faudra voir si ça se confirme.
Pour l'instant, Hubert Pérez, le Parti Socialiste est donné favori, hein, d'après les derniers sondages. Quoi qu'il en soit, le Parti Socialiste seul ne pourra pas obtenir la majorité. Donc le scénario de ces derniers mois risque de se répéter en Espagne. C'est-à-dire qu'il va falloir encore négocier pour former un gouvernement.
Alors, on ne prévoit pas du tout qu'un des deux blocs aura la majorité. Alors, bon, les électeurs peuvent nous démentir. Cela dit, tout va dépendre au fond des rapports de force. Si le Parti Socialiste gagne encore un peu de voix et si Podemos baisse encore, il sera très difficile à Podemos de ne pas se plier aux conditions du Parti Socialiste. Si c'est l'inverse, eh bien, on pourrait assister à un gouvernement de coalition, cette fois-ci de gauche, avec des ministres, les deux partis ensemble.
À suivre donc. Rousseau, est-ce que vous y voyez un peu plus clair dans la crise qui secoue l'Espagne? Rousseau? Bon, je pense que oui, j'espère en tout cas. Bonne journée donc à Matadi. Hamid, bonjour.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les éditeurs fidèles de RFI.
Je vous prends à l'antenne, mais pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Vous nous avez appelé pour poser des questions pertinentes sur Edward Snowden. Le problème, c'est que nous avions prévu Olivier Kumpf, qui est chercheur, spécialiste, qui a écrit un livre sur l'affaire Snowden, mais on tombe directement sur son répondeur, donc on ne pourra pas vous répondre ce matin. On me dit que peut-être. Alors, est-ce que ça sonne sur le téléphone d'Olivier Kumpf? Si ça sonne, on va vous répondre évidemment avec plaisir, Hamid. On est en direct, c'est comme ça tous les matins, 33 9 693 693 70. Ça sonne toujours, me dit-on, donc il y a encore un espoir, hein. Il y a encore moins d'une minute à tomber directement sur le répondeur. Que de suspense. Hamid, en tout cas, vos questions étaient pertinentes puisque, effectivement, Edward Snowden, le plus célèbre des lanceurs d'alerte, souhaite demander refuge en France, et on me dit que nous avons Olivier Kumpf. Bonjour, Olivier Kumpf.
Bonjour.
Chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes consultant sur les questions cyber et on vous doit aux éditions Economica l'affaire Edward Snowden, une rupture stratégique. Alors quelles sont vos questions, Hamid?
Oui, 6 ans après le refus du président Hollande, l'ex-agent de la NSA Edward Snowden a renouvelé sa demande d'asile à la France. Alors ma première question, pourquoi Edward Snowden souhaite-t-il quitter la Russie pour la France?
Ah. Olivier Kumpf, faut dire qu'il vit en Russie depuis maintenant 6 ans, mais il y vit par défaut.
Alors voilà, il y vit parce que c'est le seul pays qui l'a accueilli, le seul pays assez puissant pour résister aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il veut partir? Ben probablement parce que le style de vie français est a priori plus agréable que celui à Moscou, que ce soit pour des raisons de climat ou d'environnement ou de rencontre avec l'intelligentsia locale.
Oui, et quand on dit qu'il y vit par défaut, c'est que s'il s'est retrouvé en Russie, c'est qu'il faisait escale en 2013 en Russie. Il devait passer quelques heures, prendre un avion pour l'Équateur, et à ce moment-là, hop, son passeport n'est plus valable, et pendant un mois, il est resté à l'aéroport de Moscou. Il a fini par demander l'asile à la Russie, qui a fini par lui accorder, effectivement, vous le disiez, Olivier Kumpf, c'est le seul pays qui lui a donné ce feu vert. Vous avez une autre question, Hamid?
Oui, cette demande sera-t-elle possible sans trop froisser les relations franco-américaines?
Alors, pour l'instant, Olivier Kumpf, soyons précis, aucune demande formelle n'a été déposée auprès de la France, mais la semaine dernière, chez nos confrères de France Inter, Edward Snowden a affirmé qu'il aimerait beaucoup que la France lui accorde l'asile. Ce sera la bonne cette fois-ci, vous pensez ?
Non, je pense pas. Je ne pense pas parce que, pour deux raisons. D'abord parce que la France n'a pas forcément envie d'accueillir Edward Snowden, quelles que soient ses qualités, y compris le fait qu'il soit effectivement un lanceur d'alerte. Mais effectivement, vis-à-vis des Américains, on a déjà suffisamment de difficultés en ce moment, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et de l'autre côté, même si on se rapproche un peu des Russes, vous avez entendu le récent discours du président aux ambassadeurs fin août, donc on voit bien qu'il y a un changement de ton, il s'agit un peu de reprendre langue avec les Russes, on n'en est pas à leur rendre un tel service qui en plus nous mettrait dans l'embarras parce que on aurait ensuite une pression très très forte des Américains.
Autrement dit, pour résumer, alors je suis peut-être un peu caricatural, mais à part des grandes puissances comme la Russie et peut-être même la Chine qui sont donc ouvertement hostiles aux États-Unis, aucun pays au monde n'osera accueillir Edward Snowden sur son sol pour ne pas se mettre à dos les Américains.
Disons que la France est une grande puissance, elle pourrait le faire, si vous voulez. Je crois qu'elle en a la capacité. Elle serait capable de résister. La question n'est pas celle de la capacité, la question est celle de l'opportunité, me semble-t-il. Et aujourd'hui, alors que justement on a quand même pas mal de points de contentieux avec les États-Unis, je ne sens pas, je ne perçois pas, c'est mon avis à moi, je ne pense pas que le gouvernement français se rajoute une épine dans la pelote, oui, dans la pelote des chars qu'il a déjà en main.
Merci Olivier Kumpf d'avoir décroché et répondu en direct à Hamid qui nous appelait d'Abéché au Tchad. Reste avec nous, on marque une pause, le journal, la dernière édition d'Afrique Matin, et on revient tout de suite après dans 10 minutes pour parler de la lutte contre le réchauffement climatique.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.